Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publi.net, collection Temps Réel. Épisode 5. Théo n'est certain que d'une chose. Oui, son père est venu dans ce village quand il avait 20 ans. Une photo le prouve. Mais quelle vérité ou quelle légende cherchait-il dans le décor de ses parents, de ses ancêtres, de ses fantômes? Qu'a-t-il fait pendant son séjour? À ce stade, Théo n'enquête plus, il dérive. Il accueille les images. Il suit en même temps la piste de la mémoire et celle de l'imaginaire. Et celle-ci le mène au hameau de Kerlouik, où vit une vieille dame qui, peut-être, se souviendra de son père. Lentement et avec douceur. Théo sort du bois. Il a marché beaucoup plus longtemps qu'il le croyait. Enfin une bâtisse et un panneau, un lieu dit. Kerwilek, j'y suis. Il avance vers la première maison, en se rappelant ce qu'avait dit le gars du café. Soi-disant, le hameau n'est pas loin du bourg, ils ne doivent pas avoir le même sens des distances. Théo a un doute, quand même. Il rebrousse chemin, jette encore un œil au panneau. C'est marrant, je n'avais pas ce nom en tête. Kerulik, quelque chose dans ce goût-là. Il aurait dû y être en 5 minutes. C'est à 2 pas du bourg, vraiment. Un sentier de terre, un champ, 2 grandes structures métalliques habillées de vert, des serres. Il les avait repérées à sa gauche quand il est venu de Saint-Paul-de-Léon. Voilà, c'est là qu'il se trouve de nouveau, n'est-ce pas? Il arrive au hameau. L'une des maisons est fermée. Les volets n'ont pas été séparés depuis des années, liés par une plante grimpante particulièrement vigoureuse. Alors Théo se dirige vers l'autre maison, frappe à la porte. C'est ouvert. Ah, bon. Théo entre. La voix est celle d'une femme qui n'est plus jeune du tout. Elle ne l'enjoint pas explicitement à entrer, mais en lui disant que la porte n'est pas verrouillée, elle vient de formuler une invitation sur le mode détourné. Il est tout chaud. Il est encore dans le four. Tu l'aimes bien comme ça. Va le chercher, toi, pendant que t'es debout. Elle est assise dans son fauteuil, près de la fenêtre. Elle n'a pas vu Théo, qui n'a pas encore prononcé un mot. Elle le prend manifestement pour quelqu'un d'autre. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je dois prendre dans le four? Elle ne répond pas. Elle yoyote un peu sans doute, ou bien elle s'est endormie. Il paraît que les micro-siestes, dont la durée n'excède pas quelques minutes, sont terriblement réparatrices. Théo serait incapable de cette discipline. Lorsqu'il dort, c'est pour de bon. Il s'approche du fauteuil, ses yeux sont ouverts. Elle regarde par la fenêtre. Elle a donc vu Théo arriver par le chemin. Et elle le prend quand même pour un autre. L'intuition de Théo se confirme. Ça ne tourne plus très rond là-dedans. La maison est coquette, plus lumineuse qu'on le croit. Le four est une antiquité, mais il continuera à faire l'affaire encore longtemps. Théo l'ouvre. La question qu'il vient de poser est idiote. Il ne peut pas y avoir 36 trucs différents à l'intérieur. C'est un four, on y cuit des gâteaux. Il tire sur les manches de son pull pour protéger ses mains de la chaleur, comme le ferait cette sorte de gant que les enfants connaissent sous le nom de crocodile. Parce qu'il a souvent la forme de cet animal qui saisit le plat brûlant dans sa gueule et puis qui dit bon appétit. Il prend à deux mains le gâteau qui refroidit doucement sur la grille. Sur la toile cirée, il avise un dessous de plat, autre ustensile bien connu des familles. Pas de doute, c'est l'emplacement prévu. J'ai fait un phare. Je me suis dit, c'est pas bête un phare. Elle a la même bonne idée tous les jours probablement. C'est gentil d'être venu. Tiens, aide-moi. On ne croirait pas qu'un corps aussi menu puisse peser lourd, mais Théo peut l'assurer maintenant qu'il l'a vérifié. Quand tout le poids qui reposait sur le fauteuil se reporte sur l'un seul de vos bras, parce qu'une mamie vient de l'agripper avec la force du naufragé s'accrochant à sa bouée, l'effet est saisissant. L'envergure de ses pas est minuscule. Ceux-ci sont tellement rapprochés que même si la distance à parcourir est infime, il faut les multiplier en grand nombre pour atteindre le but. Le but, c'est la chaise devant la table. Elle s'y affaisse. Ouf. Théo s'assoit sur l'autre chaise, en face d'elle. Tu aimes bien ça, le phare? Elle est persuadée de savoir qui est le jeune homme installé à sa table. se tenant bien droit, les poignets posés sur la toile cirée, sagement. Elle le prend pour le gars du bistrot, c'est sûr. Il n'y a que lui qui rend visite à cette mamie. Théo ne lui ressemble pas pourtant. J'aurais pas contre. Ce serait chouette d'être gaulé comme lui, à cause des épaules. Si Théo parle dans sa tête, c'est parce qu'il ne sait pas quoi dire à la dame. Pour moi, tu m'en fais une toute petite. Il coupe de part identique. Chacun mange la sienne. Quand elle a terminé, elle en réclame une autre. Alors Théo se resserre également. Pendant qu'il mâche, il n'a pas besoin de parler. Il imagine qu'elle est restée bloquée en 1980. Elle le prend pour son père, peut-être. Il se ressemble sûrement. Ça fond dans la bouche comme un pavé dans la gueule d'un flic. Théo déglutit bruyamment. Il ne s'attendait pas à un truc comme ça. La petite vieille continue de se régaler, visiblement. Alors il rigole, elle sourit, une troisième part. On y revient, hein ? Lui, il n'en peut plus. Il s'arrête là. Doit-il parler ? Lui poser des questions ? Lui expliquer qui il est ? Elle paraît sereine, nullement perturbée par sa présence. La scène est familière, routinière même. C'est gentil d'être venu. Le goûter est terminé. Il va falloir trouver quelque chose à faire, à dire, pour meubler les minutes qui se traînent lourdement à travers la pièce. Il fait beau, on pourrait aller au jardin. Il ne se rend pas compte qu'il vient d'exprimer à la mamie la même proposition qu'il renouvelle chaque dimanche à la belle saison, à sa mère. Ça, c'est pas bête. Sur le coup, il n'a pas réalisé qu'il allait devoir l'aider à se déplacer à travers la salle à manger, à franchir le seuil, à atteindre l'un des deux sièges en plastique placés devant la maison. Drôle d'aventure. Bon, c'est moi qui l'ai voulu. Elle attrape son bras et, pas à pas, ils atteignent leur objectif, en plein sous le soleil. Elle est contente. Elle regarde droit devant elle, d'un air concentré. En fait, elle ne regarde rien du tout. Elle se repose. Elle se remet de son effort. Théo profite du bon air rural, de la douceur de l'après-midi. Il étend ses pieds devant lui. Il retire son pull, qu'il pose sur le dossier du fauteuil. Et il fait un pli à la manche, déjà courte, de son t-shirt, afin que les couleurs du ciel viennent se glisser un peu par là aussi. Il reprend son jeu là où il l'a laissé. Il retrouve le fil de sa pensée. Il poursuit son enquête, élabore un système logique imparable. De deux choses l'une. Soit elle me prend pour quelqu'un d'autre, soit c'est vraiment moi qu'elle attendait. Admettons qu'elle m'attendait moi. C'est bizarre, mais pourquoi pas? Alors, de deux choses l'une. Soit elle a été avertie par le type du café qu'un curieux traînait dans les parages et que ce curieux c'était moi. Soit elle a des trucs à me dire à propos de ma famille. Et elle m'attend depuis des décennies dans cet unique objectif. Bon, c'est romanesque, mais tant pis. Admettons que cette mamie est celle de mon père. À partir de là, de deux choses l'une. Soit elle est sur le point de me raconter la visite qu'il lui a faite quand il avait 20 ans. Soit sa mémoire a fichu le camp. On verra bien. Ensuite, allez, je veux bien aller au bout. Admettons qu'elle me raconte tout. Là, de deux choses l'une, le soleil cuit doucement la peau de Théo, en particulier les zones tendres qui n'ont pas encore été exposées, le creux du cou entre les clavicules qui est bien visible cet après-midi parce que le t-shirt est plus échancré que ne l'était le pull, et puis la partie haute des bras, juste au-dessous du rond de l'épaule, mise à jour grâce aux plis effectués sur la manche. Le temps s'écoule doucement, c'est-à-dire lentement et avec douceur. Puis les cloches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ah quand même, quasiment deux plombes que je suis ici. On entend vachement bien l'église. C'est vrai que le bourg est tout proche, même si j'ai l'impression d'être tout à fait ailleurs. À côté, elle roupille. La fameuse micro-sieste. Et elle, je sais pas sur quelle planète elle est. Mais je peux pas la laisser dehors tout de même. Il touche son bras, il dit « Madame ?» Elle ne bouge pas. Alors il passe derrière elle. Il saisit les accoudoirs du fauteuil. Il le soulève en calant le dossier contre sa poitrine. Ses biceps ont profité de la bronzette. Maintenant il travaille. À tout petit pas, il réintègre la maison et dépose la dame, bien calée dans sa chaise à porteur sur le carrelage de la cuisine. Tout doucement, c'est-à-dire très lentement, et avec une infinie douceur. Il retourne l'une des deux assiettes sur le restant de gâteau pour le couvrir. Il vérifie que tout est en ordre, mais comment peut-il le savoir puisque c'est la première fois qu'il vient ici? Et puisque tout paraît en ordre, il quitte la maison et tire la porte derrière lui. Il n'a pas posé de questions. Est-ce important? Le soir, il rentre à Paris.
C'était Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publinet, collection Temps Réel. Marin absent est disponible en podcast sur le site de Radio Campus à la page du Marin absent. Production La Compagnie Ensemble, sous la direction artistique de Coralie Tommy. Réalisation Élodie Hervier. Enregistrement Radio Campus Paris. Suite du feuilleton, demain, même lieu, même heure. La Compagnie Ensemble sera présente au Festival d'Avignon, du 2 au 7 juillet, à 18h40, dans la cour du Théâtre du Roi René. Elle présentera la pièce de conte Cosmogonie du Monde, tout public, à partir de 6 ans.